Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Antisémitisme, terrorisme, populisme, face aux nombreuses menaces qui pèsent sur notre République, on pourrait être tenté de fuir. Certains le font. Ils émigrent, en Israël ou ailleurs. Ou de faire le dos rond, en espérant que cela passera. Ou de céder au fatalisme, que puis-je faire, moi, à mon humble niveau. Un livre paru avant l'été nous exhorte, au contraire, à résister. Son titre sonne comme un manifeste pour résister à l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme. Bonjour Alain Chouraki.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et président de la Fondation du Camp des Mille, Mémoire et Éducation, dont ce livre constitue en quelque sorte le prolongement. Vous avez dirigé cet ouvrage collectif qui est à la fois une analyse scientifique, et j'insiste sur le mot, des mécanismes qui ont conduit au pire, et à travers une approche pluridisciplinaire et intergénocidaire, on reviendra sur ces termes, donc une analyse scientifique, mais aussi et surtout un livre d'espoir qui montre comment résister. Parce que comme vous le dites, il ne suffit pas de dire plus jamais ça, mais comment, aujourd'hui la question c'est comment plus jamais ça. Alain Chouraki, pourquoi ce livre maintenant? Est-ce l'esprit du 11 janvier qui vous l'a inspiré?
Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est probablement, comme vous l'avez fait brièvement, de resituer ce livre dans la mission du site mémorial du Camp des Mille. Le site mémorial du Camp des Mille, c'est donc le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact, l'un des deux seuls en Europe avec Térésine, j'en parlais hier avec Serge Klarsfeld qui me le confirmait, et nous avons voulu dès le départ que ce lieu soit non seulement un lieu d'histoire et de mémoire, mais un lieu d'éducation citoyenne. Et pour cela, nous avons pris un certain nombre de moyens, et en particulier, nous avons pris le temps de la recherche. Je suis chercheur, par ailleurs, vous l'avez dit, donc une équipe s'est rassemblée, un conseil scientifique international et pluridisciplinaire, qui a produit des résultats scientifiques, qui a rassemblé d'autres résultats scientifiques qui étaient déjà là, afin précisément de décliner en quelque sorte la question que vous avez résumée tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire pour que plus jamais ça. Et notre réponse, c'est la première chose pour réagir, pour résister, c'est d'être doté des bonnes clés de compréhension sur ce passé. Ces clés de compréhension, elles sont évidemment fournies par l'histoire, mais elles sont aussi fournies par un regard sociologique, psychosocial, politique, philosophique sur cette histoire. Et c'est l'ensemble de ces éléments que nous avons souhaité rassembler à la fois dans la muséographie du site mémorial, qui présente bien sûr, comme tous les autres mémoriaux, les lieux, qui présente bien sûr l'histoire elle-même, une histoire dont je rappelle qu'au camp des Mille, elle s'est déroulée entièrement sous Vichy, avant même l'occupation allemande, y compris la déportation des enfants que les Allemands ne demandaient pas. On l'oublie beaucoup lorsqu'on parle de Vichy.
Avant même Vichy, d'ailleurs, puisqu'elle a commencé sous la Troisième République.
Très important, la remarque que vous faites, effectivement, très importante, parce que on voit comment la République, confrontée à des crises ou à des difficultés graves, en l'occurrence la drôle de guerre, comment la République en vient à créer à prendre des mesures, à modifier l'état d'esprit, à créer des camps qui sont bien sûr destinés à faire face à une réalité de crise, mais qui déjà en eux-mêmes constituent souvent des injustices. En l'occurrence, c'était des antinazis et des antifascistes allemands et autrichiens réfugiés en France qui ont été internés au camp des Mille. Et puis ensuite, si la République ne réussit pas, eh bien, le pouvoir autoritaire qui suit n'a qu'à se baisser pour ramasser les mesures, l'état d'esprit et les camps. C'est ce qui s'est passé au camp des Mille, c'est ce qui peut aussi se passer aujourd'hui, parce que nous sommes évidemment confrontés à des crises, etc. Bon, donc si vous voulez, premier élément de réponse à votre question principale, c'est dans la logique même du projet du camp des Mille, un projet d'éducation citoyenne, un projet qui cherche à partir du passé, encore une fois, à donner des clés de compréhension qui peuvent être utiles au présent. Bon. La deuxième raison plus conjoncturelle, vous l'avez évoquée, c'est que nous avons clairement le sentiment maintenant, effectivement, que les engrenages que nous décodons dans l'histoire sont des engrenages qui se sont déjà enclenchés actuellement en Europe, en France et même au-delà. Bon, je les qualifierais d'un mot, engrenage passionnel, engrenage de peur, engrenage de passion raciste, xénophobe et antisémite, bien entendu. Et nous sommes en train de passer le cap qui est le cap décisif dans ces engrenages, qui est le cap du le cap qui fait passer de la raison démocratique à la passion identitaire. Et à partir du moment où l'on quitte le terrain de la démocratie, du dialogue possible entre des idées différentes, des opinions différentes, etc., etc., à partir du moment où on quitte cela pour l'émotionnel, la peur de l'autre, l'interaction et les débats les plus chauds entre personnes, entre groupes essentiellement, alors là, les choses deviennent immaîtrisables. Elles ne vont pas nécessairement jusqu'au bout, jusqu'au génocide, car nous disons et répétons, c'est le sens du livre, bien sûr que les engrenages existent, mais qu'ils sont résistibles, donc ça ne
Il n'y a pas de déterminisme.
Non, il
n'y
a pas de déterminisme absolu, bien entendu, loin de là. Mais il y a tout de même des constantes dans l'histoire. Et j'évoquais la notion de constante, et tout à l'heure vous avez évoqué le mot d'intergénocidaire. Pour nous, effectivement, il était important de voir si la Shoah pouvait vraiment être considérée non seulement comme un événement unique, qu'elle est, bien sûr, mais aussi comme un événement qui parle de l'homme en général et pas seulement de l'homme à un moment particulier, dans un rapport particulier en Allemagne, avec etc. Bon. Et la meilleure manière de voir si la Shoah pouvait donc éclairer le fonctionnement humain, en définitive, individuel, collectif et institutionnel, la meilleure manière, c'était de comparer. C'est-à-dire de regarder du côté du génocide arménien, du côté du génocide rwandais, des politiques génocidaires à l'égard des Tziganes. Et nous avons constaté effectivement que, bien sûr, chaque approche ou chaque moment a ses particularités, et en particulier pour la Shoah, c'est la modernité extraordinaire qui nous parle encore plus aujourd'hui. Mais les fondamentaux que l'on retrouve dans chacun de ces génocides sont des fondamentaux communs à l'homme, et dans la mesure où ils sont communs à l'homme, où qu'il soit et quelle que soit la période, ils sont aussi présents aujourd'hui. On doit donc s'en méfier. Ce qui nous amène à une autre réflexion, si vous le voulez bien, c'est que, à nos yeux, le pari fondamental du site mémorial du Camp des Milles et de ce que nous appelons le volet réflexif, c'est-à-dire cette approche pluridisciplinaire et intergénocidaire, le pari fondamental, il est de dire... Eh bien, la grande différence entre nos anciens qui ont été massacrés, etc., c'est qu'ils ne savaient pas que c'était possible. Ils n'avaient probablement pas entendu de parler du génocide arménien, ou très peu, et en tout cas, ils ne faisaient pas du tout de rapprochement, etc., et là, ça n'avait pas été analysé, ni même établi, pour l'essentiel. Aujourd'hui, nous savons. À mes yeux, c'est la grande différence, à condition qu'on en fasse qu'on en fasse autre chose que pourquoi que plus jamais ça, ce que vous évoquiez tout à l'heure, et que donc on passe au comment plus jamais ça, et donc ce que je viens d'indiquer, l'étude des mécanismes. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, je le disais, dans la mission d'origine du site mémorial du Camp des Milles, mais c'est aussi une conscience qu'aujourd'hui, il y a des enjeux, il y a des extrémismes qui se nourrissent l'un l'autre et qui s'alimentent l'un l'autre, et qui par conséquent crée une sorte d'urgence citoyenne qui a fait que on a donné une priorité très très grande à la sortie de cet ouvrage, qui d'ailleurs va se décliner très bientôt, là j'y ai passé une partie de l'été, dans un petit manuel de survie démocratique qui va sortir probablement lors d'un... Mais qui sort aujourd'hui en définitive. Il sort aujourd'hui lors de ce forum... Que nous animons en partenariat avec Le Monde.
J'ai oublié de citer, c'est aux éditions du Cherche Midi. Ça sera également aux éditions du Cherche Midi
Non, ça sera une publication de notre fondation, donc la fondation du Camp des Milles, car nous tenons à ce que la diffusion soit la plus large et elle sera gratuite.
C'était une de mes questions, justement, à quel public vous destinez ce livre, qui s'apparente à un manuel, y compris sur le plan formel. Il y a beaucoup de citations, d'illustrations, il y a des schémas, il y a des arborescences, il y a des photos, il y a des poèmes,
il y a des blagues,
chansons, il y a des blagues,
il y a des blagues juives,
exactement,
oui.
Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman pour illustrer voilà les différents thèmes développés dans le livre, qui se composent en fait en quelque sorte de deux parties. Dans la première partie, vous, donc collectivement, décodez, comme vous l'avez dit, l'engrenage en trois étapes qui conduit au génocide, en identifiant les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et dans une deuxième étape, dans une deuxième partie plutôt, vous vous attachez plutôt aux formes de la résistance, aux moyens de la résistance, et aux exemples d'ailleurs, à donner de nombreux exemples empruntés aux trois génocides de résistance, ou plutôt, comme on pourrait y revenir, de ce que vous appelez l'acte juste, hein, qui est peut-être plus...
Plus large
que la résistance. On entend souvent dire, Alain Chouraqui, mais nous ne sommes plus dans les années 30, Auschwitz, en gros, c'est du passé, et vous semblez justement pas forcément d'accord avec ça. C'est-à-dire, vous dites un peu comme Adorno n'a cessé de le répéter au milieu des années 60, et c'est pas pour rien que je fais référence à Adorno, parce que votre démarche rappelle quand même celle de l'école de Francfort aussi. Il disait les conditions de possibilité d'Auschwitz, c'est-à-dire les conditions qui ont rendu possible Auschwitz, sont toujours présentes. Vous partagez ce constat ?
Complètement, à la réserve près que j'évoquais il y a deux minutes, c'est que maintenant, nous savons qu'Auschwitz a eu lieu. Et comment ça a eu lieu ? Donc ça fait tout de même une différence dans les conditions. Mais soyons clairs, les conditions qui ont produit Auschwitz sont toujours là, les conditions de la résistance sont renforcées parce qu'Auschwitz a eu lieu. Mmh. Bon, les conditions d'Auschwitz sont toujours là parce que, vous l'évoquiez à l'instant, les mécanismes collectifs qui par état peuvent conduire jusqu'au crime de masse et au génocide, ces mécanismes-là sont des mécanismes tout à fait classiques. Je vais les reprendre brièvement, si vous en êtes d'accord.
Oui, au contraire, allez-y.
Bon, la base de ces mécanismes, c'est ce que nous appelons le terreau des tensions sociales. Dans toute société, y compris la plus apaisée, il y a des intérêts divergents, il y a des idéologies différentes, il y a des conflits de toute nature. Bien. La démocratie a été une conquête chèrement acquise, tardivement acquise, pour apprendre à surmonter ces tensions par le dialogue et le débat, et y compris des tensions interidentitaires, qui se traduisaient par, et qui se traduisent toujours, par du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme. La démocratie est là pour essayer d'imposer un discours de raison, d'organiser l'échange pour surmonter tout cela de façon pacifique. Bien. Mais les tendances, le terreau, il est toujours là et je pense qu'il a peu de chances de changer avant longtemps. À partir de là, si les tensions du terreau s'exacerbent pour des raisons multiples, économiques, politiques, idéologiques, guerres, etc., ou si la démocratie faiblit, donc le contrepoids en quelque sorte, alors là, s'amorce une spirale en trois étapes que vous avez évoquées. La première étape, c'est une étape de crispation, d'activisme d'une minorité, de perte croissante de repères, violence individuelle, et d'abord verbale et d'abord contre les biens. Puis s'enclenche, pour faire très court, une deuxième étape où les violences sont plus collectives, où l'idéologie dominante commence, je l'évoquais tout à l'heure, à être dominée, l'air ambiant, enfin l'atmosphère, si je puis dire, commence à être dominée par le passionnel, et notamment le passionnel interidentitaire. Et dans cette deuxième étape, petit à petit, un basculement institutionnel, par des lois, par des mesures, on l'évoquait tout à l'heure, qui sont parfois prises par les républiques ou les démocraties dans ce contexte de crise. Et puis, quand ça ne suffit pas ou que ça ne marche pas, le risque de passage à un pouvoir autoritaire.
De manière démocratique.
Ça fait partie des leçons.
Vous mettez bien en évidence, c'est que vous rappelez, par un graphique, que le parti nazi a obtenu en novembre 32, donc aux dernières élections libres, hein, si
ça,
je ne me trompe pas, 33,1%.
33, un tiers.
Il est minoritaire, effectivement.
Il est minoritaire, il est arrivé au pouvoir. Et nous savons bien aujourd'hui
que... C'est un chiffre qui nous évoque. Hein, quand
n'est-ce
on...
pas N'est-ce pas Bon, voilà.
Voilà, une actualité, on disait.
Absolument. Et je suis chaque fois effrayé de voir... tant de gens se dire, mais bon, il faut, les extrémistes n'ont pas la majorité. Bon, a-t-il jamais fallu un pouvoir extrémiste ou pas extrémiste d'ailleurs, la majorité pour être au pouvoir? Mais non, quel est le pouvoir démocratique ou pas qui arrive avec une majorité des voix? Non, le problème, c'est une minorité active, d'environ un tiers chaque fois, c'était le cas pour Hitler encore une fois, ça a été le cas dans d'autres dictatures, qui trouvent des alliés. Des personnalités ou des partis qui croient, j'allais dire faire les malins, en tout cas qui n'imaginent pas qu'ils vont se faire manger par le grand méchant loup, bon, et qui arrivent ainsi effectivement au pouvoir et qui petit à petit effectivement entrent dans une spirale extrêmement difficile. Donc c'est, si vous voulez ce...
Donc là c'est la deuxième étape, hein,
oui,
comment on passe
de la
démocratie au régime autoritaire.
Exactement.
Souvent, que vous montrez bien par l'intermédiaire d'une phase de transition qui est le régime, ce que vous appelez le régime hybride, hein,
oui,
c'est-à-dire...
Oui, l'expression n'est pas de moi, mais effectivement, je pense qu'elle illustre bien les choses, c'est-à-dire que actuellement en particulier, nous devons apprendre du passé, mais nos ennemis, les extrémistes, ont aussi appris du passé. Et c'est-à-dire qu'eux aussi masquent la petite moustache et la mèche. Et ils feront bien en sorte de ne pas avancer vers le pouvoir avec une moustache brune et une mèche. Bon, ce qui veut dire que, c'est bien sûr symbolique, mais ça veut dire que les mesures qui seront prises, les approches et les discours seront beaucoup plus, comment dirais-je, convenables et beaucoup plus acceptables, ce qui donne ce qu'on peut appeler un régime hybride, c'est-à-dire de l'autoritarisme de fond... et du libéralisme sur le plan économique. On a connu cette question-là, cette approche-là avec Pinochet par exemple, mais ça peut aussi être un État dirigiste.
En Chine ou d'une façon en Russie aussi.
Il y a toute une série de modèles possibles qui mélangent.
Les élections libres, ça ne suffit pas à faire la démocratie. Quoi. La démocratie,
pour moi, c'est essentiel. Là aussi, ça fait partie de mes...
Mais c'est pas suffisant.
Ça fait partie de mes rognes, on va dire. Bon, de mes rages, c'est de considérer qu'à partir du moment où quelqu'un est élu, on lui doit le respect de la démocratie. Mais pas du tout. Alors Hitler, c'est un démocrate? Le nazisme est démocratique? Non. Effectivement, élu de façon légale, mais pas nécessairement légitime. Si on considère que la démocratie, c'est le critère de la légitimité, eh bien messieurs, vous êtes élus très bien par... une démocratie légalement dans le cadre de la démocratie, mais vous n'êtes pas des démocrates et moi je vous serre pas la main, tout simplement.
Donc toutes ces distinctions, hein, je le rappelle, sont dans le livre. Enfin, voilà, le livre contient de nombreuses pistes de réflexion justement, voilà, parce que votre devise c'est comprendre pour agir, mais pour agir il faut comprendre d'abord.
Et aussi ne rien faire, c'est laisser faire.
C'est vrai, il y en a d'autres, hein.
On n'en sait pas.
Alors donc on en vient à la dernière étape, parce que donc la première c'est ce que vous avez appelé le diable naît dans le quotidien, bon. Ensuite de la démocratie au régime autoritaire, et la dernière étape c'est l'extension des persécutions et des menaces contre tous cette fois. Bon, on n'en est pas là, mais voilà.
Non,
mais pour vous, on en est à la première étape en quelque sorte.
On en est au début de la deuxième étape.
Oui,
malheureusement, parce que comme je l'évoquais, deux éléments me font dire cela. Premièrement, la domination du passionnel que j'évoquais, ou qui n'est pas encore complètement dominant, mais qui, disons, qui challenge sérieusement la raison, hein. On a vraiment de la crispation identitaire un peu partout. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement l'obligation dans laquelle se trouve la République de prendre des mesures plus dures que celles qu'on aurait voulu, et qui du coup peuvent Nolens volens, sans le vouloir, faciliter le chemin ou l'action de d'un pouvoir autoritaire qui arriverait par les urnes. Donc oui, on est, je pense, dans une dynamique qui voilà, résistible encore une fois.
On va venir justement,
oui,
à ça.
Bien sûr.
Ouais.
Mais d'un mot, excusez-moi,
bien sûr.
Parce que on abordera peut-être sous un autre angle dans un instant. Mais je pense que l'essentiel, quand je dis résistible, c'est de se souvenir que dans la plupart de ces situations, la majorité, par définition, puisque ce n'est qu'une minorité qui entraîne l'ensemble, enfin qui fait basculer, la majorité, par définition, n'est pas acquise précisément à ces mouvements-là. Et ce que nous apprend précisément ce travail sur l'histoire, c'est que c'est que l'important, c'est de mobiliser cette majorité, de faire en sorte, dans les urnes et pas seulement, qu'elle ne se laisse pas voler en définitive le pouvoir démocratique, le pouvoir de la majorité par une minorité. Donc aujourd'hui, c'est un de nos atouts forts. Nous savons que la majorité ne suit pas les extrémismes, quels qu'ils soient, loin de là. Nous avons un État républicain qui est fort et qui nous soutient, enfin qui soutient ce point de vue, cette approche. Bon, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont positifs, qui font effectivement que le processus n'est pas encore allé trop loin et qu'il est résistible, mais dans un contexte déjà difficile.
Alors dans le livre, justement, vous insistez sur le danger de la passivité et vous dites, et je trouve que c'est une idée assez forte, nous sommes aussi responsables de ce que nous ne faisons pas.
Oui, là aussi, je ne suis pas le premier à le dire, bien entendu.
C'est-à-dire, résister, ça commence déjà par s'abstenir, on va dire.
Alors, la passivité...
S'abstenir de faire ou s'abstenir de suivre. Ou...
Effectivement.
Avant d'être un acte, de prendre les armes, enfin, qui serait à l'autre extrême.
Alors, il y a deux types de passivité. Il y a effectivement la passivité de ceux qui ne réagissent pas, alors que, comme nous le martelons dans ce livre, ne rien faire, c'est laisser faire, y compris ces dynamiques. Et puis, il y a la passivité, quelque part, qui est une sorte de refus. Qui peut déjà être une forme de résistance. Tout dépend à quel moment on se situe. La passivité avant l'arrivée au pouvoir d'un extrême, c'est une passivité qui facilite l'arrivée au pouvoir. La passivité après l'arrivée au pouvoir d'un extrême, ça peut être tout simplement de la désobéissance civile, par exemple, qui est une forme de résistance. Donc il faut effectivement les distinguer.
Je voudrais que vous développiez justement cette notion d'acte juste. Il y a un petit chapitre qui s'appelle... 1000 manières de ne pas laisser faire. Et je trouve que c'est très intéressant parce que pour vous adresser aussi à des jeunes, ça peut être un peu inhibant, la figure du résistant en armes ou pas. Ils peuvent se dire, mais moi, je ne suis pas aussi courageux, je ne suis pas prêt à risquer ma vie. Je ne suis pas sûr que... C'est la grande question, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais été résistant ou pas? Ben, moi, je ne suis pas sûr que je l'aurais été. Et donc, cette notion permet peut-être voilà, d'être moins... Notion d'acte juste, vous pouvez la développer, d'être...
Je crois que vous l'avez fort bien dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'était notre intention. Il est clair
ça
que...
Ça englobe toutes les formes de résistance.
Oui,
aussi
mais...
Aussi bien les justes, justement, ceux
oui,
qui ont été
bien
justes,
sûr,
que
bien
ceux
sûr.
Qui
et
ont
nous parlons
résisté,
au camp des mille, des justes, bien entendu. Ils ont toute leur place et ô combien respectables. Mais c'est vrai que les justes ou les saints créent une... La notion de juste ou de saint crée une distance révérentielle, je dirais... par rapport à des braves gens que nous sommes tous et que sont encore plus les jeunes et qui se disent bon ben moi je suis pas un héros enfin ou j'en sais rien a priori bon et c'est sain d'ailleurs qu'il y ait cette réaction là. Par contre leur montrer que face à tous les génocides comme vous l'évoquiez il y a une forme des formes mille manières donc de ne pas laisser faire depuis la création artistique qu'on a vue très très active au mille ou qui a permis de maintenir la dignité face à la volonté de déshumanisation bon jusqu'à, bien sûr, prendre les armes, mais en passant par des éléments tout simples que chacun peut faire et dont chacun sent qu'il peut le faire, du type le policier qui détourne le regard au moment où un gamin s'échappe. C'est pas héroïque et pourtant ça sauve une vie. Bon, donc nous terminons effectivement le circuit par un mur des actes justes, des actes de résistance, de sauvetage, des actes qui n'ont pas laissé faire.
Emprunté donc aux trois génocides. Hein.
Emprunté aux trois génocides, absolument. Et les actes sont nombreux. Et je dois vous dire que dans l'élaboration des contenus scientifiques, souvent pénibles, bien sûr, de cette histoire, il y avait comme bouée de sauvetage un petit dossier dans lequel mes collaborateurs et moi-même avions tous ces actes justes qui nous permettaient de respirer le meilleur de l'homme quand nous étions en train de travailler sur le pire.
Et qui nous permet à nous aussi de garder espoir. Merci Alain Chouraqui. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Pour résister », sous-titre « À l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme » paru aux éditions du Cherche Midi. J'invite les enseignants, tout le monde à se le procurer. Nous vous consacrerons une deuxième émission dimanche prochain pour aller plus loin sur l'action que vous menez sur le site mémorial du Camp des Mines. Et notamment, nous aborderons donc l'inauguration de la chaire UNESCO Éducation à la citoyenneté, sens de l'homme et convergence des mémoires qui aura lieu le 8 octobre prochain en présence du président de la République, François Hollande, et de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.radio-rcj.info et sur notre site internet mémoirevive.net, Mémoire Vive au pluriel. À dimanche prochain.